je vais regarder descendre ce marteau.
Non, peut-être.
Oui, je vais attendre. Je regarde si Alex se soulève.
Voilà, avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Dybali le premier à sauter dans sa roue. Antichlec est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. L'attaque est lâchée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nouvelle sortie du dimanche où nous allons aborder l'actualité vélo de la semaine écoulée et celle à venir. Une actualité plutôt chargée, un programme conséquent qui s'est déroulé sur cette semaine. Et donc pour aborder les différents points de cette actualité, on retrouve aujourd'hui Greg.
Salut tout le monde.
Et également Grégory.
Salut à tous.
Et enfin Charles.
Bonsoir à tous.
Et bonsoir à vous, cher commissaire. Bien, comme je l'ai signalé en tout début d'émission, effectivement, un programme très dense. Et je vous propose de commencer par les courses qui se sont déroulées sur notre sol, en Drôme et en Ardèche. On avait un bloc de deux courses, ma foi, plutôt alléchante. Hein. Le plateau était assez intéressant. Le profil des courses laissait aussi augurer de belles choses à voir. Et on peut dire que globalement, on n'a pas été déçus. On a eu des beaux vainqueurs et des courses en ligne plutôt animées. Je ne sais pas si c'est ton avis, Charles.
Ouais, les courses en France étaient assez intéressantes. Il faut dire aussi que la météo était assez catastrophique, donc ça a rendu la course encore plus compliquée. Moi, à vrai dire, j'ai pas trop regardé hier, parce que vu le numéro de Rémi Cavagna, j'ai un peu zappé plus sur le Het Nieuwsblad, comme la course était jouée en France, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, si j'ai une chose à retenir de ce week-end français, c'est l'énorme performance physique de Rémi Cavagna.
Oui, quelque chose auquel il nous a déjà habitués par le passé. Greg, peut-être un mot là-dessus aussi.
Pareil, je pense que si on parle d'abord du diptyque Ardèche et Drôme, je pense que ce qui restera en premier lieu, c'est la performance de Cavagna qui a gagné en partant de très loin, en lâchant ses compagnons d'équipe et en résistant et en le mettant à la fin. Je crois qu'il met presque 3 minutes au deuxième.
C'est ça.
Donc une grosse performance pour Rémi Cavagna. C'est un coureur qu'on attendait aussi, évidemment. Beaucoup soulignent qu'il est chez Quickstep et que ça c'est l'usine à champion. Et que on pense aussi, vu ses qualités aussi de rouleur. Qualité assez rare chez les coureurs français. C'est vrai que ça fait tout, c'est toujours un petit peu particulier. Ça rappelle un peu, dans ce style baroudeur, rouleur, un peu des Jackie Durand, etc. Les grandes échappées de Jackie Durand qu'on pouvait voir il y a maintenant de très longues années.
Oui. Tu veux peut-être encore revenir là-dessus aussi, Grégory ?
Ouais, c'est sûr que Cavagna fait un numéro extraordinaire. Il nous habitue un peu de plus en plus à ce genre de numéro. On savait qu'il pouvait en être capable, mais c'est vrai que de là à mettre 3 minutes à ses poursuivants en direct, c'est une grosse perf.
Ah, il les a écœurés.
Donc ouais, il est chez Quickstep et du coup, de Koenig Quickstep, et du coup, on se demande un peu comment est-ce qu'il pourrait avoir les coups des franches sur certaines courses et même au plus haut niveau, mais là où il peut s'exprimer, il en profite bien et c'est encourageant pour la suite. Et après, au-delà de ça, on peut aussi parler du bon comportement sur le week-end de Warren Barguil ou Vincenzo Nibali ou encore Guillaume Martin qui ont été assez à leur avantage, même s'ils ont été un peu éclipsés par Cavagna finalement. Et il y a aussi, faut quand même souligner la victoire de Simon Clark.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà vu Cavagna faire ce genre de numéro, notamment, je me souviens l'année dernière, sur le Tour de Californie, où il l'avait également emporté après une longue échappée, et avec aussi une énorme avance sur ses poursuivants.
Juste pour parler aussi des conditions, quand même, qui étaient bien dégueulasses, avec la pluie, le vent, et que ça rajoute un petit peu au côté un petit peu épique de la victoire.
C'est ça. On se retrouve sur des petites routes qui serpentent, un temps horrible et des écarts monstrueux. On avait un peu l'impression de voir un cyclisme d'un autre âge, même si de temps en temps, encore ces dernières années, on a l'occasion de voir ce genre de spectacle. Alors personnellement, lorsque j'ai vu Cavagna partir et l'avance qu'il avait, je me suis très vite dit que c'était plié. Ben, ça n'a pas raté. Alors c'est facile de dire ça après coup, évidemment. Est-ce que on peut le comparer à d'autres baroudeurs d'un autre temps, comme par exemple on le fait apparemment dans le peloton, d'après ce que je viens de lire sur le chat, on le compare déjà à un James Voigt. C'est quelqu'un qui pourrait en tout cas se faire un beau petit palmarès, à mon avis, en courant de cette façon. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, Charles.
Ouais, Cadmapey parle à juste titre d'une comparaison avec Jens Vox, c'est vrai que ça peut ressembler à ça. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné hier dans la perf de Cavagna, c'est que malgré les conditions dantesques dont vous avez parlé, il était à 5 minutes, je crois, à une cinquantaine de bornes de l'arrivée, et au final, il perd très très peu de temps sur des mecs comme Nibali, Barguil, Guillaume Martin, etc., qui sont quand même des cadors du peloton. Donc, enfin, la performance physique, pour moi, elle est vraiment vraiment exceptionnelle, et je pense que c'est à souligner parce que. Un coureur comme ça qui fait un numéro dans ce sens-là, qui va résister, qui ne perd que 2 minutes au final en une cinquantaine de bornes, malgré les conditions et puis malgré aussi le profil, parce que ça montait quand même énormément. Enfin, je trouve que c'est une perf physique exceptionnelle et faut pas la mésestimer, quoi. Dans l'optique du futur proche ou moyen, je pense que Rémi Cavagna, on peut le revoir faire des numéros comme ça, pardon, hein, assez rapidement.
Et puis bah, aujourd'hui, on se retrouve avec un podium solide hein, qui ne dépareillerait pas, par exemple, au sein d'une course World Tour. Hein. Simon Clark, habitué également aux places d'honneur sur les Ardennaises ou devant Warren Barguil et Vincenzo Nibali, assez entreprenant, voire presque même intenable sur les 20 derniers kilomètres. Bon, voilà, ça annonce la couleur et j'ai envie de
Mais
dire.
Nibali, c'est intéressant, Max, qu'on en a parlé la semaine dernière. Et c'est vrai qu'entre nous, on en parle aussi souvent. On se dit que depuis quelque temps, c'est un coureur qui cible vraiment ses objectifs. Et avant ses objectifs, justement, il n'est jamais vraiment performant. On pourrait limite s'inquiéter pour lui en disant qu'il a la traîne. Enfin, toi, tu le suis un peu plus que nous. Je me demande ce que tu pensais justement de cette version 2020 de Nibali qui, dès le début de saison, semble physiquement vraiment performant, quoi.
Oui, c'est alors est-ce que c'est à mettre au crédit du changement d'équipe parce que là il arrive dans une équipe alors où je dis pas vraiment où il doit faire ses preuves, mais au moins il doit tenter de s'imposer comme un leader indiscutable. Hein, il est quand même pas vraiment en concurrence, mais il a quand même autour de lui des gens comme Mollema. Dans un autre registre, il y a aussi un champion du monde, hein, le champion du monde en titre, Mats Pedersen, qui est aussi là. Donc Nibali, un peu comme finalement Nairo Quintana, hein, qui est arrivé chez Arkea Samsic cette année, avait peut-être intérêt à marquer très très vite les esprits. Alors pas forcément, évidemment, en explosant tout, hein, parce que on sait que pour lui, en plus, la saison va être longue hein, pour les grimpeurs. Il y a beaucoup d'échéances, plus que d'habitude, entre les JO et également le championnat du monde. On sait qu'il va y avoir beaucoup de choses qui risquent d'intéresser les puncheurs grimpeurs. Il va falloir faire des choix. Mais Nibali avait apparemment cœur à montrer, en tout cas, qu'il commençait en meilleure forme que d'habitude et qu'il ne prenait pas les choses à la légère. Je pense que voilà, une combinaison de plusieurs facteurs qui font que voilà, il fallait pour lui qu'il se montre assez vite à son avantage. Voilà, c'est mon avis, mais bon. Après avoir confirmé, on sait que a priori, il ne va pas changer son calendrier malgré les problèmes posés par le Covid-19. Il va rester sur un calendrier a priori italien et se diriger vers le Tirreno et Milan-San Remo. On aura de nouveaux éléments de réponse, je pense, à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose encore sur ce diptyque qui se déroulait là en France, avant que l'on.
On Juste Guillaume
peut.
Martin qui fait 3 et 4
Oui.
et Barguil qui fait, je crois, enfin 4 et 2. Donc, ils ont été réguliers vu les conditions. C'est peut-être à souligner parce que c'était un petit peu la guerre quand même.
Oui, à l'inverse, on peut parler de la relative absence de. Enfin, ou l'absence complètement de Julien Alaphilippe des débats.
Oui, assez discret, oui.
Donc à voir par la suite ce que ça donnera, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas spécialement rassurant. Est-ce que c'est super inquiétant pour autant? On verra. C'est peut-être un peu tôt, mais à
Peut-être
voir.
qu'il était malade, visiblement, donc à voir. On est encore tôt dans la saison pour s'inquiéter, je pense.
Alors,
Bah oui et non, parce que
ouais.
moi, autant que Colombie, je m'inquiétais pas trop, parce que surtout qu'il avait abandonné à San Juan, donc on pouvait se dire qu'il n'était pas dans le rythme. Mais le voir comme ça, bon, hier il a abandonné, mais après tout, sur une course d'un jour, quand t'as plus rien à jouer, ça sert à rien de s'emmerder à aller au bout. Mais aujourd'hui, on sent qu'il a essayé quand même. Je sais pas si vous vous rappelez de ces images dans la dernière bosse ou l'avant-dernière difficulté. On
Enfin, il
sent
a fait rouler, ouais.
quand même, enfin, il a fait rouler, mais il était aussi à l'ouvrage, quoi. Il ne s'est pas laissé détacher comme il peut le faire des fois. Donc, un Alaphilippe qui est plus ou moins à fond et qui laisse passer du temps aussi vite, moi je trouve ça un petit peu inquiétant parce qu'au final, les Strade Bianche, c'est très bientôt, c'est le week-end prochain, si je ne me trompe pas. Donc, je vois mal comment il peut être à fond le week-end prochain. Et quant à Milan-San Remo, ça va aussi venir rapidement.
Alors
Donc,
attention, hein, il n'est pas prévu sur le Milan-San Remo, hein, justement.
il n'est pas prévu, et au Strade Bianche non plus.
Non, Strade Bianche, je ne sais plus, mais pour Milan-San Remo, il avait bien précisé qu'il voulait essayer de gagner des courses qu'il n'avait jamais gagnées auparavant. Et ça m'amène justement au point suivant, c'est que, alors autant les Ardennaises, oui, c'est dans presque 2 mois, il a le temps
Non,
de
c'est
s'en
pareil, Nice,
remettre.
ça va être la prochaine course. Ah, Nice,
Mais,
le week-end
oui,
prochain.
mais par contre, il avait prévu, il avait ajouté à son programme le Tour des Flandres. Le Tour de Flandre, c'est dans 1 mois par contre. Et là, effectivement, pour cette échéance, il risque peut-être d'être encore un peu juste.
Pas
Voilà.
inquiétant, mais pas rassurant, du coup. Il faudra voir dans
Voilà.
une semaine comment il se comporte sur Paris-Nice, mais
Bon, on
ça
sait
peut être
aussi qu'il n'est pas vraiment très amateur de la météo particulièrement mauvaise qui régnait dans le sud de la France lors de ces dernières courses. À voir, effectivement, mais on sent pointer déjà une petite inquiétude. Après, c'est la Quick Step, on sait que c'est une équipe qui sait bien préparer ses rendez-vous, donc sous réserve.
Ils ont le choix des leaders aussi, je m'inquiète pas trop pour eux,
Non,
c'est-à-dire
pour eux,
même.
non, c'est ça. Alors justement, des leaders Quick Step, eux, qu'on a vus plutôt à leur avantage, eh bien, c'était plutôt sur les Flandriennes. C'était le premier gros bloc des Flandriennes ce week-end avec Loomloop et Nieuwsblad. Et donc un beau vainqueur, je pense que c'est un vainqueur qui a dû faire plaisir aussi à pas mal de monde, parce que c'est un coureur qui, eh bien en général, se montre à son avantage sur ses courses, mais qui arrive rarement à la claquer au fond. Bon, bah, cette fois-ci, ça s'est bien passé pour Jasper Stuyven, qui a battu dans un sprint à deux Yves Lampaert, donc de la Quick-Step. Une belle entrée en matière. Personnellement, je trouvais cette course assez intéressante, même si une fois que les gros qui se sont détachés devant, les 7 qui ont composé le groupe principal se sont trouvés devant, ensuite on avait un peu l'impression quand même que la messe était dite, mais enfin, on en a quand même eu, je trouve, pour son argent. Il y a eu du mouvement, il y a eu des belles choses à voir. Est-ce que c'est aussi ton impression, Charles?
Ouais, il y a eu des belles choses à voir, mais tu l'as un peu dit, ça s'est joué très tôt au final, la course que le groupe était sorti très rapidement, je crois. Moi, je ne me rappelle plus du kilométrage exact, mais on n'a pas eu vraiment de suspense. À un moment, c'est revenu à 10, une main, mais au final, ça a arrêté de rouler très vite derrière et on avait très peu de doutes sur la victoire du groupe ou non. Alors, moi, ce que j'ai retenu, ouais, c'est que Stuyven et Lampaert avaient l'air au-dessus du lot. J'étais un peu déçu de voir quand même un Mike Tennyson que je voyais un peu mieux dans le mur de Gramont. Je trouve qu'il a sauté très vite, alors qu'il sortait d'une très belle année 2019, donc à voir s'il est encore un peu juste niveau forme ou pas. Pareil, j'attendais un petit peu mieux un Matteo Trentin, surtout si Stuyven passait, je voyais Trentin passer aussi, donc à voir, mais en termes d'enseignement, je sais pas trop. On a vu qu'un Philippe Gilbert, même s'il n'était pas devant, était quand même dans le groupe derrière, donc le changement de la Quick Step à la Lotto a l'air de bien se passer, il faudra voir par la suite. Mais sinon, pas vraiment d'enseignement aussi, Wout van Aert quand même, qui a montré qu'il serait là parce qu'il a attaqué à plusieurs reprises. On a vu qu'il avait beaucoup de jus quand même. Donc je pense qu'il sera présent à partir du mois d'avril sur les grosses classiques flandriennes.
Oui, il faut rappeler aussi que justement, Wout van Aert manquait aussi Mathieu Van Der Poel qui était malade.
Voilà.
Kuurne a un peu confirmé pour moi en tout cas l'impression laissée par l'omloop. Elle a aussi une course de mouvement. En général, elle sourit plutôt aux sprinteurs, mais là on a eu un bon bûcheron devant qui a résisté jusqu'au bout. Finalement, ça a donné un final assez tendu et avec du suspense, hein. Est-ce que toi, Greg, tu as préféré finalement laquelle de ces deux courses, si tu as pu voir les deux d'abord?
Oui, j'ai vu les deux. Un petit peu, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de suspense. J'ai bien aimé le suspense à la fin aujourd'hui sur Kasper Asgreen qui s'est battu tout seul, ou quasiment même. À un moment, il a récupéré le groupe des échappés, mais il était quasiment tout seul à rouler. Le duel entre lui et le peloton, je trouve que c'était assez sympa à voir cet après-midi. Puis il termine avec une poignée de secondes d'avance et ça a été un duel. Il restait à 10-15 secondes devant le peloton pendant un très long moment, donc il y avait vraiment du suspense. Et tu l'as dit, il a gagné vraiment en bûcheron parce qu'on voyait qu'il appuyait très fort sur les pédales et c'était assez impressionnant.
Grégory, est-ce que tu veux revenir toi aussi sur cette performance?
Ouais, c'est clair qu'il a été impressionnant. Après, voilà, pour défendre un peu, pour nuancer très légèrement cette performance qui est quand même exceptionnelle. On peut quand même souligner l'appartenance de sa formation de Kuning Quickstep. Et s'il avait été dans n'importe quelle autre équipe, je pense que justement la Quickstep aurait roulé sur lui et serait très probablement revenu. Parce qu'on a bien vu dans le final, Jakobsen fait que quatrième aujourd'hui parce qu'il n'a pas été spécialement super bien emmené parce qu'on a protégé au maximum les chances de victoire d'Asgreen. Donc on a tenté de rouler le moins possible et d'empêcher un peu de revenir, mais la performance n'en reste pas moins exceptionnelle. Derrière, on a quand même le retour au premier plan de Nizzolo qui se confirme, on va dire, sous ses couleurs de la NTT. NTT qui est moins pâle que l'an passé, clairement. Donc c'est pas mal. Et Stuyven qui confirme qu'il est bien présent pour ce
Il fait
début
encore
de Flandrienne.
cinquième après
Ouais.
avoir gagné la veille, hein.
Ouais, alors que l'année dernière, il avait passé des Flandriennes assez catastrophiques, un début de saison catastrophique d'ailleurs, avant de bien finir. Là, il part beaucoup mieux, il faudra s'en méfier.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler pour Nizzolo d'un effet Bjarne-Riis déjà, hein, qui met un peu d'ordre dans cette équipe et
Si
puis
on peut
qui
éviter
va.
d'en parler, c'est aussi bien de Bjarne Riis.
Oui, ah ben, c'est comment dire, quelque chose toujours d'assez délicat parce que bon, évidemment, le coureur n'a pas laissé des souvenirs, on va dire, magnifiques sur le vélo. Mais bon, après, en tant que directeur sportif, nombreux ont déjà loué, en tout cas, son sens tactique, hein. Il est notamment à l'origine, hein, aussi du coup de force des NTT lors de la victoire de O'Connor sur l'étoile de Bessèges, il me semble. Voilà, c'est vrai que son retour ne peut pas laisser indifférent. C'est assez évident. Peut-être un mot sur les autres, les favoris qui n'ont pas forcément scoré en termes de résultats, mais qui se sont montrés. On a vu aussi.
Boscon, il s'est montré.
Oui, je l'aurais pas rangé forcément dans les favoris, mais il s'est montré à sa façon, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je pensais plutôt vous faire parler plutôt, pardon, des Christophe ou autres, Greg Van Avermaet, voire Tish Benoît, qui sont aussi un peu montrés durant ce week-end. Est-ce qu'il y en a qui vont plutôt rassurer, d'autres inquiéter sur ce point, Charles?
Bah, je sais pas, c'est dur de tirer des enseignements du Het Valk et du Het Nieuwsblad, pardon, et de Kuurne, parce que c'est des courses un peu particulières. En plus, tout le monde n'est pas là. Donc, puis on sait que quand c'est joué, les favoris ne cherchent pas non plus à se mettre à plat ventre pour renverser la vapeur. Mais je reviendrai quand même sur Moscone, moi, parce que enfin, ça me perturbe un peu ce qu'il joue avec lui. Parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il est dans des sales coups, sans faire de mauvais jeu de mots. Et à un moment, je pense que l'UCI doit trancher et doit sévir, parce que c'est pas possible. Enfin, on parle souvent du foot et un truc comme ça où les mecs sont pas exemplaires. Là, on a quand même affaire à un récidiviste. Et je pense clairement que c'est quelqu'un qui devrait être hors de peloton et pendant au moins une saison. C'est pas possible. On peut pas avoir un coureur qui passe son temps à cogner sur les autres ou à faire le gros débile. Enfin, À un moment, il y a des responsabilités à prendre, il y a une instance dirigeante qui est là pour ça. Et pour moi, Moscon doit dégager au moins jusqu'à la fin de la saison. C'est pas possible autrement.
Ah, ce serait une mesure quand même, comment dire, lourde de conséquences pour le coureur, mais bon, c'est vrai que ça commence à lui faire un passif assez gros. Bien. Une dernière chose à rajouter sur ce week-end flandrien? Ou nous pouvons passer à la suite, cher commissaire?
Allez, on peut passer. Allez.
Allons-y. Très bien. Alors, on va passer à un autre continent et changer radicalement d'ambiance avec l'UAE Tour qui s'est déroulé donc en début de semaine. Et quand je dis en début de semaine, c'est aussi parce que eh bien, il a été écourté hein, dans des circonstances un peu particulières pour cause de phobie coronavirus, parce qu'on ne sait même pas si vraiment le virus était présent sur place finalement. 3 ou 4 jours après, on ne le sait toujours pas. Voilà. Alors, on avait tous vu comme vraiment gros comme une maison la victoire de Tadej Pogačar et finalement, bah, il est tombé sur un os, il est tombé sur un Adam Yates vraiment très impressionnant, surtout lors de la première montée de Jebel Lafitte. Voilà. Bon, pour moi, c'était une surprise. Hein, je crois que c'était vraiment sa course surprise. En plus, on ne savait pas vraiment dans quelles conditions il allait arriver. On peut dire que là, il a frappé un grand coup, Charles.
Ouais, Adam Yates, il a frappé un grand coup. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Bon, moi, j'ai du mal à me passionner pour l'UAE Tour parce que ça restait 2 courses de côte. Donc, c'est un peu dur. J'ai pas regardé la première, à vrai dire. J'ai plus regardé la deuxième montée où il y a eu quand même une petite bagarre avec Pogačar et derrière, on avait Godu et Lutsenko. Mais ouais, costaud Adam Yates. Après, c'est pareil, on est en février. Hein, quand je vois Lutsenko qui joue quand même encore la gagne ou le podium, je me dis qu'on ne peut pas trop non plus tirer d'enseignement. Je voyais un Campenaerts aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la montée de jeudi, je crois, il était encore dans un groupe de 20 coureurs. Donc à partir de là, je ne sais pas trop si on peut tirer vraiment des enseignements pour les grands tours en tout cas.
En tout cas, moi j'ai trouvé pour la première montée, Adam Yates, enfin oui, Adam Yates, assez impressionnant parce que entre guillemets, il n'y a pas eu photo sur les autres. Hein. C'est-à-dire qu'il est parti très tôt. C'était pas entre guillemets le démarrage en dernier kilomètre où tout le monde se regarde et sur un démarrage il fait la différence. Ça, il est parti très tôt et il a fait une grosse différence. Et même en roulant ensemble, finalement les autres ne sont jamais revenus sur lui. Alors que pour la deuxième montée. Il y a finalement plus, ça a été beaucoup plus tactique, ça s'est beaucoup regardé, donc enfin, il y a peut-être moins de conclusions sur le niveau des uns et des autres à tenir. Mais sur la première montée, c'est vrai que Yates a été vraiment très impressionnant.
En fait, Yates, sur la première montée, il repart un peu sur les bases qu'il avait entamées l'année dernière, où il a été très très fort l'année dernière en début de saison, et il a craqué à partir du moment où il a perdu le maillot de leader sur le Dauphiné, il a craqué, et puis sur le Tour, ça a été une catastrophe. Mais tout le premier semestre jusqu'au Dauphiné, il avait été l'un des tout meilleurs grimpeurs du peloton. Et il a remontré cette impression de facilité en fait sur la première ascension de Djébel
Oui, c'était vraiment impressionnant. Alors, un petit mot aussi peut-être sur les différents duels que se sont livrés les sprinteurs. On a vu finalement que c'était assez équilibré, hein. Il n'y en a pas vraiment un qui paraissait vraiment au-dessus des autres, puisque on a eu 3 victoires au sprint par trois coureurs différents, Ackermann, Ewan et Groenewegen. Alors, c'était des sprinteurs attendus, hein, évidemment. Ewan, sur la montée d'Atadam, on sait qu'il est pratiquement injouable, vu son poids par rapport aux autres sprinteurs. Il dispose d'un avantage quand même conséquent. On a vu sur cette étape quand même pointer Arnaud Démare et remonter les morts après un très très mauvais placement. Et puis j'ai envie de dire, et puis c'est tout pour Démare. Est-ce que vous en attendiez plus? Ou finalement c'est à peu près conforme à ce quoi vous pensiez voir, Charles.
Bah non, c'est conforme à ce que j'attendais moi pour Arnaud Démare. Au final, on sait que de toute façon, c'est pas l'un des meilleurs sprinteurs du monde. C'est pas pour autant qu'il gagnera pas cette année, bien au contraire. Hein. Je pense qu'il claquera une étape. Je sais pas s'il fera le Giro ou la Vuelta ou les deux, mais je serais très étonné qu'il gagne pas une étape sur un de ses grands tours. Il l'a jamais dominé, il dominera jamais. Mais par contre, à un moment, il va toujours faire mouche comme il l'a fait sur le Tour de France et sur le Giro l'an dernier, quand même.
Est-ce que c'est inquiétant pour lui? Est-ce que on doit le considérer toujours comme un sprinteur ou plutôt comme eh bien, un coureur rapide qui peut saisir des opportunités de temps en temps, un peu à la Matteo Trentin, j'ai envie de dire, qui ne dispute pas forcément toujours les sprints
Bah,
en grand comité?
faut voir, mais les supporters ou les fans de la FDJ vont me contredire sur le chat au cas où, mais il me semble, mais je suis pas sûr, hein, donc je parle vraiment avec des pincettes, qu'Arnaud Démare a dit qu'il abandonnait les classiques pour se concentrer sur les sprints. Donc,
Enfin, il allait modifier un peu son calendrier,
pense pas
mais...
qu'on se profile sur un truc à la Trentin qui, lui, au contraire, a l'air de privilégier un peu plus les classiques que les arrivées massives. Et Matteo Trentin n'a jamais été capable de remporter une étape face au Cador sur un grand tour.
Ouais, puis contrairement à Trentin, justement, Démare reste le leader du sprint de sa formation. On attend vraiment des résultats sur les sprints massifs plats. Et là, en fait, il a fait sa meilleure performance sur un sprint particulier dans une côte enfin, moyennement difficile. Enfin, il y a quand même un peu de pourcentage dans le final, mais on l'attendait plus sur les sprints tout plats, quoi.
Oui, carrément.
Oui. Un petit mot sur la quatrième place de David Godu. Vous vous attendiez à mieux ou finalement, bah, il est là où il devrait être, tout simplement. Charles.
Bon, ouais, je pense, enfin, les gars vont dire ce qu'ils en pensent, mais je pense qu'il est là où il devait être. On a vu que, ben, on l'a dit tout à l'heure, que Yates semblait au-dessus du lot. Derrière, il était un petit peu en dessous de Pogacar, mais il était sinon au niveau des autres. Il s'est bien battu, je trouve, je le dis. Il est bien revenu. Il n'a pas essayé de se cramer en replaçant des attaques pour ensuite sauter. Donc, ouais, je pense qu'il est à sa place. Peut-être un peu moins fort que quand il avait tenu la roue de Roglic l'an passé, mais les échéances sont encore loin pour lui. Et on a vu qu'il n'était quand même pas au top à la Provence. Là, il y a une vraie progression. Donc, il faudra voir à la prochaine épreuve s'il monte encore d'un petit palier.
Très bien. Alors, avant de clore l'émission, hein, puisque comme le calendrier était très, très dense cette semaine, on est déjà à la fin. Maintenant, j'ai envie de vous poser une dernière question. C'est par rapport à ce qui s'est passé sur la fin cette UAE Tour et l'annulation des deux étapes suite aux menaces du coronavirus. Ben, qu'est-ce qu'on peut craindre pour la suite? On sait que là, justement, avec ce qui se passe en Italie, les courses à venir sont vraiment en danger. A priori, on devrait en savoir un peu plus demain, savoir dans quelle mesure elles seraient maintenues. Mais voilà, on risque d'avoir de l'historique dans le sens où ce serait la première fois depuis 1945 qu'on aurait un Milan-San Remo annulé, carrément. Les menaces pèsent sur Tirreno, sur Milan-San Remo et surtout sur bah, les Strade Bianche qui arrivent assez vite la semaine prochaine. Voilà, à quoi faut-il s'attendre pour la suite selon vous, Charles?
Bah, je sais pas, c'est pas évident de se
Ah, c'est pas évident,
prononcer.
hein.
Enfin, c'est pareil, on ne veut pas passer pour des gros égoïstes de fond du lot qui veulent absolument leur course et qui n'en ont rien à foutre du reste. Donc,
Y a des
c'est pas
priorités.
évident. Ouais, voilà, il y a des priorités, on va dire. Et bah, on espère bien sûr que la saison sera pas trop faussée, enfin, en tout cas le printemps, parce que je pense pas qu'il y ait de risque pour la suite. Mais je sais pas, sincèrement, j'espère que les courses auront lieu. Mais ouais, c'est peut-être pas la priorité non plus. Mais égoïstement, oui, on espère toujours au fond qu'on pourra voir du vélo à la télé, même si c'est pas la priorité, donc c'est pas trop évident non plus de se prononcer sur ce genre de sujet, surtout qu'on connaît pas non plus.
Non,
Enfin,
bah, tant qu'on ne peut pas connaître vraiment l'évolution hein, de la propagation ou non de cette maladie, c'est sûr que c'est pas évident. Hein. Là, on fait un peu
pour faire semblant de se transformer en médecin l'espace de
Non.
5 minutes. Donc,
Déjà, on fait semblant de se transformer en expert du cyclisme
voilà,
l'espace
on
d'une
reste à notre
demi-heure.
place.
C'est
Non, blague
des.
à part, je pense, les gars, mais ouais, enfin, on n'a pas d'infos encore, à vrai dire, sur la tenue des Strade Bianche ou pas. Nous, pour être complètement transparent, on a fait une demande d'accréditation et pour l'instant, il n'y a pas de refus ou d'annulation à ce niveau-là. Enfin, rien qui laisse présager, pardon, que la course n'ait pas lieu. Donc, bah, je ne sais pas. On va faire
Visiblement,
comme tout le monde,
pour
je
l'instant, enfin, Milan-San Remo serait plus en danger que les Strade Bianche pour le moment. Mais après, toujours pareil, ça peut changer du jour au lendemain, selon les nouveaux cas
oui, c'est lui qui a
positifs ou
envoyé
non.
un
On a vu que
peu.
c'est pas toujours évident. Donc ça voilà, ça va être un peu une avis, ça va rythmer l'actu de la semaine, l'actu vélo de la semaine sera rythmé par les modifications éventuelles ou non, et eh bien du calendrier.
Puis le
Ouais.
risque pour finir sur ce sujet-là, c'est qu'il y ait peut-être une jurisprudence en fait avec l'UAE Tour, parce qu'on a vu qu'on prenait, enfin que les autorités prenaient vraiment pas de risque. Donc après, c'est aussi possible qu'une course débute pendant 2-3 jours et que si on se dit qu'il y a un problème, ben on arrête tout et on fiche le classement général et on fout tout le monde en confinement, quoi. Ça, c'est aussi une possibilité, je pense.
Le problème n'étant pas la course en elle-même, mais c'est souvent plutôt sa logistique et les à côté,
Oui, voilà.
surtout pour les courses à étapes, en fait. C'est surtout pour ça, je pense, hein, les séjours dans les hôtels. Effectivement, il y a des régions qui sont plus, voilà, qui sont plus en confinement que d'autres. C'est pour ça qu'effectivement, on peut plus s'inquiéter pour Milan-San Remo d'ailleurs que pour les Strade Bianche, qui elles se déroulent en Toscane. Mais pour l'instant, rien n'est à exclure. Voilà, il faut espérer que, avec le retour du beau temps, en général, ce n'est pas favorable au virus et que les choses rentrent progressivement dans l'ordre. À voir maintenant aussi comment elles vont être bousculées d'ici là, hein, avant que
Il
tout
faut voir
ça, justement.
la volonté des autorités, parce que là, on peut le lire, le Tour de Taïwan a commencé ce matin, et on court à Taïwan, alors qu'on est pourtant dans une
Oui.
région qui est très proche, enfin très proche, hein, c'est façon de parler, parce que la Chine est immense, mais on est assez proche quand même de l'épicentre du virus, donc on court quand même, on a du monde sur place, et moi, on m'a dit qu'on faisait des relevés de température assez régulièrement tous les jours sur les suiveurs, donc je sais pas, mais on court, en tout cas, on court à Taïwan, donc. Ça dépendra des autorités, de la volonté de chaque pays, par rapport à ça et de la politique affichée quand même.
Enfin, voilà, et à chaque fois, ça fera prudence aussi. Quand je parle de jurisprudence, ça sera aussi qu'est-ce qu'on fait d'un coureur qui a simplement pris froid.
Oui,
C'est-à-dire,
voilà.
visiblement, alors c'est ce que disait Stéphane Rossetto, je sais plus quand, hier, je crois, ou ce matin, dans une interview, il disait que oui, il y a des coureurs qui ont pris froid. Les soigneurs de l'UAE, ils étaient en t-shirt au sommet de Jebel Al Fit. Ils ont simplement pris froid. Qu'est-ce qu'on fait d'un coureur qui a de la fièvre qui tousse? Est-ce qu'on met toute l'équipe de côté? Enfin, ça a posé pas mal de problèmes, je pense,
Surtout dans
aux
une période où il y
organisateurs.
a pas mal de virus. Vous l'avez vu ce qui s'est passé avec Morkov, pardon, où il y a eu une certaine psychose qui s'est installée et visiblement ce serait pas, enfin, ça serait autre chose. Donc,
Oh, mais c'est vite rétabli, hein, puisque il est venu gagner sur la piste à Berlin dans la foulée. Hein.
on ne sait pas. Ouais.
Enfin, c'est
On verra comme tout le monde, on attend.
beaucoup de soucis pour les organisateurs, à mon avis.
Ouais. Oui, ça va
Est-ce
être
qu'ils veulent
un gros
faire?
casse-tête. Cette semaine sera sûrement riche d'enseignements à ce niveau-là, je pense, la semaine à
S'ils veulent
venir.
faire de la prévention sur Gianni Moscone, on les empêche pas, hein, par contre, ça c'est sûr.
Très bien. Bon, eh ben, écoutez, comme beaucoup d'entre vous, hein, chers auditeurs, on va être dans l'expectative. Cette semaine va sûrement délivrer des informations assez précieuses quant à la marche à suivre et sur ce à quoi il faudra s'attendre pour les jours et les semaines à venir. On espère tous, hein, évidemment, bien sûr, qu'il y aura le moins de choses, moins de courses annulées possibles et que le calendrier pourra se poursuivre on ne peut plus normalement, sachant que pour certains coureurs, déjà, ceux qui sont restés bloqués à cause de l'UAE Tour, c'est déjà un peu problématique pour pouvoir préparer certaines courses comme le Tirreno ou le Paris-Nice qui arrivent très très vite.
Oui, parce qu'on le rappelle, l'équipe Cofidis a envoyé un communiqué de presse aujourd'hui et ils sont toujours bloqués à l'hôtel en fait à Abu Dhabi ou à Dubaï, je ne sais pas où ils sont stationnés, parce qu'il y aurait en fait quelqu'un à l'étage de leur hôtel qui serait extérieur à l'équipe, qui aurait enfin où il y aurait une suspicion de coronavirus. Donc s'ils peuvent rester là 15 jours, s'il y a une mise en quarantaine, et ça peut en effet, même s'ils ne sont pas porteurs du virus, handicaper les prochaines courses, notamment un retour sur Paris-Nice ou sur Tirreno, parce qu'ils participent aux deux épreuves.
Très bien. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. L'essentiel a été dit, sachant que de toute façon, comme on le répète, nous n'allons pas prendre la place du corps médical pour pouvoir parler de ça outre mesure. Hein. Il y a très peu de choses finalement sur lesquelles, on sait très peu de choses. Et c'est l'évolution, hein, des cas et de la propagation ou pas de la maladie qui fera que. Ces courses se dérouleront, et selon la volonté, bien sûr, des autorités, sachant que ben en Europe on préfère plutôt pêcher par excès de prudence que l'inverse, mais j'ai envie de dire dans ces cas-là c'est une bonne chose, hein. Les vies et la santé des coureurs et des spectateurs priment surtout. Voilà, bien écoutez, désolé d'avoir clos cette émission sur cette note un peu différente et un peu extra-sportive, mais quand l'extra-sportif finit par rejoindre le cyclisme de cette manière, on est aussi un peu obligé d'aborder le sujet. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. On se retrouve eh bien, la semaine prochaine, on espère en tout cas, hein, avec beaucoup de choses à vous dire. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir!
Salut tout le
Salut
monde.
tout le monde.